enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Et j'avais à cœur, depuis un couple de semaines, mais avec notre conférence missionnaire en Virginie et avec le témoignage de notre sœur Alice la semaine passée, j'ai pas eu le temps de continuer. Mais aujourd'hui, on va continuer avec un deuxième message et probablement on va faire quelques semaines sur le sujet de comment avoir une vie heureuse. Est-ce que cela vous intéresse? Ou est-ce que vous êtes un gang de malheureux? Non. Vous voulez être heureux. Tout le monde veut avoir le bonheur, n'est-ce pas? C'est normal. En effet, comme ça, Dieu nous a créés avec le désir de réussir, d'avoir du succès et vraiment d'avoir la joie et le bonheur dans notre vie. C'est son plan à lui. C'est un bon Dieu. Il est un bon Seigneur. Amen. Et qu'est-ce qu'il veut pour nous? C'est le meilleur. Donc, on va commencer en Luc chapitre 11, versets 27 et 28. Juste avec une chose que Jésus, notre Seigneur, notre Maître, qu'est-ce qu'il a dit lui-même? Et j'espère que vous croyez bien à qu'est-ce que Jésus a dit, c'est la vérité. Hein? Est-ce que Jésus est menteur ou est-ce qu'il est Seigneur? Il est Seigneur. Moi, j'aime bien qu'est-ce qu'un homme de Dieu a dit il y a bien des années. Des personnes qui sceptiques qui ont dit, mais là, je ne sais pas si Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Je crois qu'il est peut-être, c'était un bon personnage, c'était un bon leader, on pourrait dire. Il a enseigné des bonnes morales, mais il a dit, écoutez, c'est pas comme ça que ça marche. Soit Jésus est, quoi? Il a dit, soit il est menteur, parce qu'il a dit qu'il était le Fils de Dieu, hein? Soit il est maniaque, ou il est Seigneur. Amen. On n'a pas l'option de dire, ah oui, il était une bonne personne. Non, soit il est menteur, soit il était maniaque, complètement fou, ou il est vraiment Seigneur. Et moi, j'ai cru, et je crois toujours que Jésus est Seigneur. Amen. Et Jésus a dit ceci, il y avait un discours qu'il donnait, il parlait avec beaucoup de sagesse et beaucoup d'autorité. Et tandis que Jésus parlait ainsi, une femme élevant la voix du milieu de la foule lui dit, heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Hein, ça, c'est vraiment la religion qui parle, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de personnes qui vont entendre les paroles de Jésus et tout de suite, au lieu de faire une connexion personnelle et spirituelle, ils vont faire les choses et les réponses religieuses et ils vont dire les choses qui sont vraiment pas en ligne avec la parole de Dieu. Jésus a répondu en disant, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Amen. Pas juste ceux qui écoutent. Parce que le 2 août, et si vous n'étiez pas là, je vous encourage à prendre la cassette, ou c'est encore sur notre site web, vous pouvez aller écouter le message du 2 août. Mais laisse-moi vous dire une chose. Qu'est-ce qu'on a vu? C'est que ceux qui veulent être heureux doivent être ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu. La Bible dit, il y a deux genres de personnes. Les auditeurs oublieux, ceux qui écoutent la parole, mais qui ne le font pas. Et il y a des personnes qui écoutent et qui agissent selon qu'est-ce qu'ils entendent. Amen. Les personnes qui écoutent et qui agissent sont les personnes qui sont heureuses et bénies. Comme Jésus a dit, il y a deux façons de bâtir une vie. Tu peux bâtir ta maison sur le sable ou tu peux bâtir sur le roc. Celui qui bâtit sur le sable, c'est la personne qui écoute la parole de Dieu, mais qui ne le fait pas. Mais celui qui bâtit sur le roc, c'est celui qui écoute et qui agit en conséquence. Amen. Parce que les tempêtes, les vents, les pluies, les inondations, les problèmes vont venir contre les deux maisons. Les deux maisons peuvent avoir la même apparence à l'extérieur, mais une maison est solide, l'autre maison est faible, et la maison qui est sur le roc va subsister, la maison sur le sable va être détruite, et la ruine de cette maison va être grande. Amen. Et qu'est-ce qu'on a dit dans la parole de Dieu? C'est que si vous voulez être heureux, il faut bâtir sur le roc. Comme Jésus a dit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. On va lire deux passages dans l'Ancien Testament qui sont tellement forts. Et je vous invite à vraiment préparer votre cœur et écouter qu'est-ce que je dis comme si c'est vraiment Dieu lui-même qui vous parle. Parce que, en réalité, la Bible, c'est Dieu qui vous parle. C'est pas Pasteur Ken qui vous parle ce matin, c'est le Dieu redoutable, tout-puissant, le Dieu d'amour, le Dieu d'éternité, c'est lui qui nous parle ce matin. Et s'il nous parle, on est sage d'écouter. Amen. Mais regardons, psaume chapitre 1, le premier psaume, c'est juste au milieu de votre Bible, où vous pouvez regarder notre, mais de préférence, faites les deux. Alléluia. Psaume 1. Et la plupart des chrétiens connaissent ces passages, mais on va les lire ensemble. Et on va écouter dans le but d'agir. On parle de comment être heureux dans la vie, le secret d'une vie heureuse. Parce qu'il y a tant de chrétiens, je me suis aperçu qu'il y a tant de chrétiens dans le corps de Christ aujourd'hui, pas juste dans notre Église, mais partout dans le monde, qui sont malheureux, qui sont frustrés. Leur marche chrétienne, c'est pas une marche de victoire. C'est juste vraiment une vie où tout le monde est en train de réagir à leurs problèmes. Et c'est pas les chrétiens en action, c'est les personnes, on pourrait dire des croyants charnels en réaction. Est-ce que vous me suivez? Les personnes, c'est un problème après l'autre, et oh, qu'est-ce que je vais faire? Oh, qu'est-ce que je vais faire pour régler ce problème-là? Et, oh, ils appellent, aide-moi au secours. Oh, vraiment, aide-moi au secours. Ils sont malheureux, ils sont défaits, ils sont frustrés, déception après déception. Et ça, c'est dans les églises. C'est vrai, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai raison? C'est pas supposé d'être comme ça. Nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Avez-vous entendu ce que j'ai dit? Nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Nous sommes fiancés à lui. Notre Père est le Dieu de l'univers. Mon Père est riche. Amen. Je suis dans une famille royale. Je suis enfant de Dieu. Je suis héritier de Dieu et co-héritier de Jésus-Christ. Je ne suis pas fait pour vivre dans la défaite, mais pour vivre dans la victoire. Amen. Mais pourquoi est-ce que les gens ne vivent pas dans la victoire? Voici, on va voir aujourd'hui la raison et les raisons. Psaume 1, verset 1. Heureux l'homme, la clé d'une vie heureuse. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi, ou on peut dire aujourd'hui dans la parole de l'Éternel. Amen. Et qui la médite jour et nuit. Quel genre de personne est-ce qu'il va devenir? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Est-ce que vous avez entendu? Tout ce qu'il fait, lui réussit. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Donc, si vous avez des échecs après échecs, après échecs, après échecs, après échecs, il y a un problème en quelque part. Amen. Je ne suis pas pour culpabiliser qui que ce soit. On a tous, eux, des échecs. Moi, j'ai encore des échecs, des fois, dans ma vie. Mais je sais que si j'ai des échecs, une épreuve, c'est une chose, un échec, c'est une autre chose. Amen. Si j'ai des échecs, des vrais échecs, c'est parce qu'en quelque part, je n'ai pas écouté ou je n'ai pas mis en pratique qu'est-ce que Dieu a dit dans sa parole. C'est vrai, n'est-ce pas? Et des fois, on pleure, on entend souvent des chrétiens qui pleurent. « Oh, je ne sais pas pourquoi est-ce que ça m'arrive de même? » Mais c'est parce que vous marchez dans le conseil des méchants, des fois. C'est parce que votre plaisir n'est pas vraiment dans la parole de Dieu. Et c'est parce que même si vous écoutez régulièrement la parole de Dieu, ça reste là entre vos oreilles et vous ne faites pas qu'est-ce que vous entendez. C'est pas qu'est-ce que tu sais qui fait la différence, c'est qu'est-ce que tu fais. Est-ce que je suis assez direct ce matin?
Amen.
Bon, vous m'aimez toujours?
Amen.
Bon, mais je vous aime aussi, c'est pourquoi je parle de même. Jérémie 17, regardons. Alléluia. Ah, ce verset m'a frappé tellement il y a quelques années. ça m'a vraiment, vraiment frappé. Je m'en souviens, il y a 3-4 ans, la première fois que j'ai eu vraiment une révélation de Jérémie 17. Jérémie, chapitre 17, et on va lire ici à partir de verset 5. On parle de deux genres de personnes encore. Hein? Celui qui est malheureux, celui qui bâtit sur le sable, et celui qui est heureux, la personne qui bâtit sur le roc. Hein? Il y a une personne, et on n'a pas lu la fin de psaume 1, là, j'aurais dû lire le dernier verset, là, je vais le lire, c'est dans vos notes. C'est marqué que tout ce qu'il fait lui réussit, il n'en est pas ainsi des méchants. Vois-tu, il y a une différence entre les méchants et les justes. Il y a vraiment une différence. Et je me suis dit, si le monde ne peut pas voir une différence entre les chrétiens et les non-chrétiens, il y a un méchant problème. C'est vrai, n'est-ce pas? Si ils peuvent jamais constater qu'il y a quelque chose qui nous distingue d'entre les autres, il y a un problème parce que la Bible est claire que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur sont sous la puissance du malin, ils sont dans les ténèbres, tandis que nous sommes dans le royaume de son Fils bien-aimé et la lumière de ce monde, nous sommes le sel de la terre. Et on est supposé d'éclairer le monde autour de nous. Mais trop souvent, tout ce qu'on rayonne, c'est les ténèbres qui sortent de nous. C'est pas comme ça que Dieu veut qu'on vive. Amen. Et Dieu nous appelle à faire des choses différemment et devenir l'épouse glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, une église sainte, une église sanctifiée, mise à part, seulement pour lui. Hein? Le mari ne veut pas partager sa femme avec qui que ce soit. Vous êtes d'accord? Et Dieu ne veut pas partager sa femme avec n'importe qui. Amen? Alléluia! Gloire à Dieu. Je vous aime. Et là, je parle pas juste pour si, comme on dit en anglais, hein, si le soulier vous fait, portez-le. Hein. Mais je pense que on a tous besoin de s'approcher davantage de lui. Il y a dans chacun de nos vies, même si on est quand même consacré, sanctifié, on a toujours de route à faire. Vous êtes d'accord? Mais regardons, Jérémie 17, 5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Un misérable dans le désert. Vous savez, vraiment, dans l'hébreu, ce mot misérable, ça parle d'un buisson, comme un petit buisson qui est tout desséché dans le désert. OK? Donc, Dieu est en train de faire une comparaison. Les hommes qui se confient dans la chair et dans les hommes sont maudits et sont comme les misérables, les petits buissons desséchés dans le désert. C'est ça que Dieu dit. Encore, c'est pas Pasteur Ken, donc si vous n'aimez pas ça, parlez-lui-en, hein? Il dit ici, et il est comme un misérable dans le désert, et il ne voit pas arriver le bonheur. On parle de le secret d'une vie heureuse. Il ne voit pas arriver le bonheur. Il ne voit pas arriver le bonheur. Tout le monde cherche le bonheur. Tout le monde cherche à se faire plaisir. Mais le problème, c'est que quand on le fait selon la chair, quand on marche dans le conseil des méchants, quand on veut faire les choses selon l'homme, quand on cherche par les moyens de ce monde de faire les choses, on est toujours déçu. Amen? Et au lieu d'être heureux, au lieu de trouver le bonheur, on est des misérables dans le désert. Trop de chrétiens sont des petits buissons séchés, desséchés dans le désert. Mais regardons, ça continue. Il ne voit pas arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert. Une terre salée et sans habitants. C'est-à-dire qu'une terre salée ne peut pas produire du fruit. Rien ne peut pousser dans une terre salée. S'il y a trop de sel dans une terre, toutes les racines vont être brûlées. Il n'y a rien qui pousse. Amen? Et il y a des personnes qui travaillent fort. Il y a des personnes qui vont essayer de planter toutes sortes de choses et cultiver toutes sortes de choses dans leur vie. Mais aussi longtemps qu'ils marchent dans le conseil des méchants, aussi longtemps que leur confiance est dans la chair ou dans leur propre intelligence, ça ne porte jamais du fruit. Wow! Est-ce que vous êtes là? Mais il y a une bonne nouvelle qui s'en vient. Amen. Tout le monde dit, donne-moi la bonne nouvelle. Verset 7. Béni soit. Et le mot béni et heureux, laisse-moi vous dire, souvent, on peut changer l'un pour l'autre dans la parole de Dieu. Béni, heureux, même chose. Voulez-vous être béni? Voulez-vous être heureux? Soyez béni. Béni l'homme, soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté. Est-ce que ça vous fait penser à un autre verset qu'on a lu? Psaume 1. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. La chaleur va venir. Et si vous n'êtes pas convaincu, vous n'êtes pas en vie. Vous devrez, c'est vrai, hein? Combien de vous, même en tant que chrétien, vous avez découvert que des problèmes, les défis viennent dans la vie, même si vous connaissez le Seigneur. Les temps de chaleur, les temps de pression, le temps où on va passer par le feu vont arriver à tout le monde. Et ceux qui sont les buissons desséchés dans le désert, qu'est-ce qui arrive si on met une petite étincelle même à côté d'une buisson desséchée dans le désert? Ça prend feu, ça brûle, c'est détruit, il n'y a rien qui reste. Amen? Il y a des chrétiens qui marchent comme ça. Comme l'homme qui bâtit sur le sable, dès que le problème arrive, sa maison tombe. Le buisson desséché dans le désert, dès que le feu, dès que la température commence à monter, la pression commence à monter, disparu. Oh! Qu'est-ce que je vais faire? Tandis que ceux qui connaissent le Seigneur et qui mettent leur confiance dans le Seigneur, regardons bien. Regardons bien. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Wouh! Dans l'année de la sécheresse, il n'a pas de crainte. Est-ce que c'est faux ou est-ce que c'est fort? Ça, c'est fort. Laisse-moi vous dire, on vit dans un temps difficile. La Bible dit, Paul a dit à Timothée que dans les derniers temps, il y aura des journées, des temps difficiles. Et ça va pas s'améliorer au niveau de ce monde et de notre société. Les choses vont aller en s'empirant pour le monde, mais les choses vont aller de gloire en gloire pour l'Église. Amen. Même dans l'année de sécheresse, même quand tous les marchés du monde sont à terre et personne ne peut vendre, personne ne peut acheter, même quand rien va bien autour de nous, nous n'aurons rien à craindre. Ce n'est pas automatique. C'est juste pour ceux qui mettent leur confiance dans l'Éternel. Amen. Est-ce que vous êtes là ce matin? Alléluia. Préparons-nous. L'année de sécheresse s'en vient. Les temps difficiles, on les a déjà vécus et on va en vivre davantage dans le futur. Mais on n'a rien à craindre si on bâtit sur le roc, si on fait confiance à l'Éternel. Amen. Alléluia. C'est des bonnes choses que je vous dis ce matin. J'espère que vous resterez avec votre cœur. Donc, moi, aujourd'hui, j'avais juste à cœur de vous donner trois choses simples mais profondes que vous pouvez faire, que nous pouvons faire, moi je peux faire aussi, pour vraiment assurer que je vais être un arbre planté près d'un courant d'eau au lieu d'un buisson desséché dans le désert. Quand j'ai lu ce verset la première fois, tout de suite j'avais une image dans ma tête d'un western. Hein? Tu as vu hein, les westerns, c'est comme avec les vieux villages western et puis c'est tout le désert, la poussière qui est... avec le vent et poussé ici et là, et puis tout d'un coup, il y a qu'est-ce qu'on appelle le tumbleweed, hein, les petits buissons qui sont détachés, qui flottent dans l'air. Et il y a trop de chrétiens qui sont comme ça. Dès qu'un vent vient, déplacé. Dès qu'un feu vient, consommé. Tandis que Dieu, qu'est-ce qu'il veut? C'est qu'on soit des arbres plantés. Le vent peut souffler. Ça peut nous bouger, nous bousculer un petit peu, mais nos racines sont assez profondes que qu'on ne bouge pas de notre place. Amen. Ça, c'est ce que Dieu veut pour nous. Et c'est ça, sa volonté pour nous. Alléluia, alléluia. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Première chose, hein, vous pouvez étudier et méditer ces versets plus tard à la maison, un peu plus davantage. Mais première chose, développer une révérence. Tout le monde dit révérence. Développer une révérence pour Dieu et pour sa parole. C'est une chose qui manque dans les églises aujourd'hui. C'est une révérence pour Dieu et pour sa parole. Les gens se moquent de Dieu dans notre société. C'est vrai, n'est-ce pas? Et il y a même des personnes sincères qui sont sincèrement, comme vous dites dans les champs de patates, il y a des gens sincères, mais qui quand même, ils se moquent de Dieu. Pourquoi? Parce qu'au lieu de faire qu'est-ce que Dieu dit de faire, comment il dit de le faire dans sa parole, ils disent, oui, mais ça c'était bon peut-être pour les autres dans un premier temps, mais de toute façon, là, c'est l'année 2003, les choses sont différentes, la société est différente, on devrait changer pour être en mode aujourd'hui. Hein? C'est pourquoi on a des choses affreuses qui se passent même au nom du christianisme. Des principes de la parole de Dieu qui sont pas juste compromisés, mais qui sont complètement ôtés. N'est-ce pas? Pourquoi ces gens n'ont pas la crainte de Dieu? La Bible, quand on parle d'une révérence, la Bible appelle ça la crainte de Dieu. Et ça, c'est pas une peur comme « j'ai peur de Dieu » dans ce sens-là, mais c'est un respect et une révérence profonde pour Dieu et pour sa parole. Combien de vous, quand vous, aujourd'hui, pendant votre journée, vous avez déjà utilisé l'électricité à la maison ou ici à l'église? Est-ce qu'il y a des gens? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas touché à un appareil électrique aujourd'hui? Levez la main. Personne. Est-ce que vous avez peur de l'électricité? Non. Mais, est-ce que vous avez du respect pour l'électricité? J'espère que oui. Hein? C'est une chose d'utiliser une prise électrique comme il faut, de brancher une sécheuse ou quelque chose de même. C'est une autre chose de mettre un couteau dans la prise. Amen? Si on suit les instructions, on n'a aucun danger. On reçoit, c'est comme les automobiles. Il y a des personnes qui sont venues en auto, quelques-uns qui sont venus à pied, mais combien de vous êtes venus en auto aujourd'hui? Avez-vous peur des autos? J'espère que non. Mais est-ce que vous avez de la révérence pour les autos? Du respect pour les autos? Est-ce que vous savez qu'une auto peut vous écraser? Hein? Est-ce que vous savez que si vous ne faites pas les choses comme il faut, si vous ne suivez pas les instructions pour les autos, ça peut vous tuer ou ça peut tuer quelqu'un d'autre? C'est comme moi, une chose que j'aime bien, j'ai toujours aimé depuis... Moi, j'aime... la tire arc et j'aime les fusils, les choses de même. Mais pas pour tuer les personnes, mais je suis quelqu'un que j'aime cibler les choses et j'aime atteindre mon cible. Amen. Et quand on était en vacances, on était chez mon père et j'avais mon fusil, juste un petit 22 calibre, mais je voulais que mes enfants essaient. Et je veux pas qu'ils aient peur des armes à feu. Mais je veux qu'ils aient de la révérence. J'ai dit, les fusils ne s'excusent pas. On peut dire, oh, je m'excuse, je ne l'ai pas fait par exprès. Ça ne marche pas avec un fusil. Même si vous êtes désolé, c'est trop tard. D'accord? Mais laisse-moi vous dire, je pense qu'on a besoin de la même genre de révérence pour la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une arme. C'est l'épée de l'esprit. N'est-ce pas? On ne devrait pas avoir peur des épées, mais on devrait avoir du respect, parce qu'une épée peut faire mal aussi. Il faut, avec un fusil, toujours être au bon bout. Amen? Et c'est la même chose avec Dieu. Il faut toujours être du bon côté avec Dieu. Amen? si nous sommes du bon côté de ses principes, de sa parole, de ses instructions, de ses préceptes, de qu'est-ce que Dieu nous a dit de faire, comment agir dans la vie, comment marcher dans la vie, nous n'avons rien à craindre. Au contraire, ça, c'est comme une auto, ça va nous transporter, nous amener là où on veut aller. Comme un fusil, on va être capable d'atteindre notre cible dans la vie. Nos objectifs, on va les atteindre. Mais si on se trouve à l'autre côté, si on s'oppose à qu'est-ce que Dieu a dit, comment il a dit de marcher, la façon qu'il nous a dit de marcher, là, on est en plein danger. Et c'est pas parce que Dieu est méchant, c'est pas parce que Dieu veut nous faire mal, c'est juste comme ça. Amen. Si je dis à mes enfants, restez en arrière pendant qu'on tire. Et si un enfant décide d'aller en avant, c'est pas forcément la personne qui tire qui est, c'est pas de sa faute. C'est la personne qui n'a pas écouté, qui s'est déplacée devant le fusil. Amen. Je veux que vous ayez une telle révérence pour Dieu et pour sa parole. Quand Dieu dit de faire telle chose, pourquoi? C'est parce qu'il nous aime. Quand Dieu nous dit de ne pas faire une telle chose, pourquoi? C'est parce qu'il nous aime. Des personnes qui pensent, oh, c'est comme, on est comme souvent comme des enfants. Un des premiers emplois que j'ai eu, je gardais une vingtaine d'enfants dans une école chrétienne. Après l'école, c'est moi qui étais comme en charge de genre de garderie. Et j'avais une vingtaine d'enfants, mais tout autour, dans le bois, autour du terrain de jeu, il y avait de l'herbe à puce, partout dans le bois. Mais les enfants souvent demandaient, est-ce que je peux aller jouer dans le bois? Je dis, non, tu peux pas. Savez-vous qu'est-ce qu'ils ont dit? Oh, toi, tu es méchant. Tu veux pas qu'on s'amuse. Non, c'est pas parce que je suis méchant, c'est parce que je veux pas que tu arrives à la maison avec des démangeaisons et tu n'arrives pas à dormir. Amen. Même chose avec Dieu. Dieu dit de ne pas faire certaines choses d'une certaine façon. Et des fois, on dit, hey, mais c'est quoi le problème? Est-ce que Dieu ne veut pas qu'on s'amuse? On dit souvent aux adolescents, c'est mieux d'attendre d'avoir les relations sexuelles. Il faut attendre d'être marié. Pourquoi? Parce que Dieu veut te priver de quelque chose? Non, c'est parce qu'il sait que si tu attends, tu vas avoir beaucoup mieux dans le contexte du mariage. Il sait également que ça va détruire ta vie si tu ouvres la porte au péché. Amen? Laisse-moi vous dire, le péché tue. Tout le monde dit, le péché tue. Et si Dieu nous dit de ne pas faire quelque chose, de ne pas marcher dans le conseil des méchants, c'est parce qu'il veut qu'on soit les arbres plantés près des courants d'eau. Amen. On va lire Psaume 128, versets 1 à 6, c'est dans vos notes, c'est une cantique d'égrès. Heureux tout homme qui craint l'Éternel. Qu'est-ce que la Bible dit? Heureux tout homme qui craint l'Éternel. On va le dire ensemble. Heureux tout homme qui craint l'Éternel. Qui marche dans ses voies. Amen. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux et tu prospères. Vois-tu, Dieu est bon. En fait, tout le monde dit, Dieu est très bon. Il sait comment avoir et qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une belle vie, pleine de bonheur et pleine de joie. Ta femme est comme une vigne féconde, donc on voit qu'il y a même l'harmonie et la réussite au niveau de la famille, dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plantes d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils, ça part d'une longue vie, amen, en santé, que la paix soit sur Israël et que la paix soit sur l'Église aussi. Amen. Proverbe 28, 14 dit, « Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. » Cela ne veut pas dire un homme qui marche dans la peur et qui a peur de noirceur, qui a peur des démons. Ça parle d'une personne qui marche dans la révérence et qui marche avec un respect pour la parole de Dieu. Amen. Qui marche dans la crainte continuellement, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans quoi? Dans le malheur. C'est à nous de choisir. Être heureux ou être maudit? Qu'est-ce que vous aimeriez mieux? Être maudit comme un buisson desséché dans le désert ou être béni comme un arbre planté près d'un courant d'eau? Amen. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que j'haïs. Donc, si vous voulez développer la crainte de Dieu, comment est-ce que vous pouvez développer la crainte de Dieu? Commencez à détester le mal. Détester le péché. Avoir en haine le péché. Pourquoi? Dieu déteste le péché, mais il aime le pécheur. C'est ça, hein? Oh, il y a des choses que je ne sais pas si je devrais oser même dire cela, mais... Ose. Il y a des personnes qui manquent de respect. Là, je marche sur la glace qui, selon le monde, n'est pas trop épais. Hein? Mais vous savez, il y a des choses que Dieu dit à propos des relations avec les hommes et les femmes même. Et Dieu parle de l'importance d'être pur sexuellement. La parole de Dieu parle aussi que Dieu a créé un homme pour être avec une femme. Mais aujourd'hui, il y a même des églises qui disent, bon, c'est pas grave si un homme veut être avec un homme. Et il peut être même dans le ministère et être homosexuel. Et savez-vous qu'il y a même des lois ici au Canada qu'un pasteur qui parle comme je parle maintenant, je pourrais être arrêté même. Mais vois-tu, j'aimerais mieux obéir à Dieu que d'obéir à l'homme. Mais voici qu'est-ce que je veux que vous sachiez. Est-ce que j'ai quelque chose contre les homosexuels? Non. Rien du tout. En fait, je les aime de tout mon cœur et Dieu les aime de tout son cœur et Dieu a donné son fils. C'est un instant. On a eu, même, j'ai eu un appel, même il n'y a pas longtemps, sur le répondeur à l'église. Je veux juste que vous sachiez que je suis pour les mariages gays et que la... Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je suis pour le mariage gay et que la... Oh, c'est pas le mot que je cherche. Non, quand on fait une séparation entre les personnes, une distinction, c'est la haine. Ou la... Non, c'est pas la distinction, mais il y a un autre mot. Discrimination, c'est la haine. La discrimination, c'est la haine. Laisse-moi vous dire une chose, ça, c'est pas la haine. C'est pas une question de discrimination, c'est une question de la parole de Dieu. Dieu sait que tous les problèmes de sida et toutes ces choses auraient pu être évités si les gens auraient pu rester purs sexuellement. Dieu ne veut pas que les gens meurent à 24, 25, 26 ans de sida. Il veut qu'ils vivent longtemps. Dieu veut que leur femme soit féconde et que les fils autour de leur table soient comme une bénédiction. Il veut que les gens vivent longtemps pour voir leurs enfants et leurs petits-enfants. Ça, c'est le plan de Dieu. Amen? Et c'est, donc, c'est pas une question de la haine. Donc, si jamais vous connaissez quelqu'un et qui dit, « Oh, mais vous autres, vous les chrétiens, vous n'aimez pas les homosexuels. » Non. Au contraire, vous devrez venir à mon église. Mon pasteur, il dit le contraire. Il aime tout le monde. Le Seigneur aime tout le monde. Est-ce que Dieu déteste ceux qui ont des problèmes quelconques? Non. Dieu déteste le péché. Et nous aussi, on a besoin de développer la haine pour le péché. Moi, je déteste tout ce qui va détruire un enfant de Dieu ou n'importe qui. Amen. Si ça peut vous faire mal, je déteste cela. Moi, je déteste ça quand si mes enfants tombent malades, je déteste ça. Est-ce que vous détestez la maladie? On devrait détester et avoir en haine le péché. Ça, c'est la crainte de Dieu. Ça, c'est la crainte de Dieu. On ne joue pas avec le péché. Le péché, c'est amusant, c'est fun. Pour quelques minutes, quelques mois, quelques années. C'est comme faire du parachutisme sans une parachute. C'est de fun de voler, n'est-ce pas? Mais c'est la fin de l'histoire qui fait mal. Il y a bien des gens, « Oh, c'est le fun de vivre cela. C'est le fun de vivre. Je ne suis pas constraint. Je ne suis pas dans la prison de tous les préceptes que Dieu a établis. Je suis libre. Hein? Je vole. » Mais, wow. Amen. Wow. C'est un peu fort ce matin? Est-ce que vous êtes avec moi? Vous m'aimez toujours? Alléluia. Deuxième chose, méditer sa parole jour et nuit. C'est comme la parole de Dieu a dit. On a dit d'abord, il faut haïr le péché, comme c'est marqué, heureux l'homme qui ne marche pas dans les voies des méchants. Mais là aussi, la parole a dit qu'il prend plaisir. Son plaisir, c'est dans la loi ou la parole de Dieu. Et dans sa loi, il médite jour et nuit. Méditer la parole de Dieu jour et nuit. La Bible dit, mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur. Attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche. Voulez-vous avoir la direction pour votre vie? La direction pour votre vie va se trouver dans la parole de Dieu. La parole nous dit comment se diriger. Vous avez la misère des fois à prendre une décision. Il y a certaines décisions, et je m'en reviens pas des fois des personnes qui viennent me voir et qui me posent la question, que penses-tu, pasteur, de telle chose? Et c'est une chose qui est noire et blanc, claire, nette, dans la parole de Dieu. Ce n'est pas une question d'une opinion, c'est une question d'ouvrir la Bible et de lire qu'est-ce que la Bible dit. Est-ce que vous êtes là? La parole va vous diriger et la direction qu'elle vous donne, c'est une direction de paix, de victoire, de réussite, de succès et du bonheur.
Amen?
Oui, mais je pense que ça serait peut-être mieux de le faire juste cette fois-ci. Le Seigneur va comprendre. Je sais qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Je sais que la parole de Dieu dit qu'il faut toujours pardonner. Et je sais que la parole de Dieu dit qu'il ne faut pas s'enivrer, par exemple. J'ai déjà parlé avec des personnes en train de prendre la drogue et en disant, hey, tu sais, mais je sais que le Seigneur il comprend ça. Je vais pouvoir prier mieux. Non, il ne comprend pas du tout. C'est pas comme ça que ça marche. Amen. Wow, assez direct. Alléluia. Bon, mais c'est marqué, lis-les constamment sur ton cœur. Tout le monde dit constamment. Attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche. Ils te garderont sur ta couche. C'est-à-dire la protection, la direction, la protection. Ils te parleront l'inspiration à ton réveil. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Voulez-vous le chemin de la mort ou le chemin de la vie? Choisissez donc la vie. Choisissez à obéir à la parole de Dieu. Mais avant d'obéir, il faut méditer. Il faut constamment remplir notre cœur avec la parole de Dieu. Si votre cœur, votre intelligence est constamment remplie avec les choses de la télévision, les livres, les magazines qui ne sont pas corrects, la conversation qui n'est pas correcte, si vous êtes toujours avec des personnes qui vous détruisent au lieu de vous bâtir, laisse-moi vous dire une chose, vous allez rester en misérable dans le désert. Mais si vous prenez le temps de constamment, oui, mais je vais à l'église une fois par semaine, c'est passé. Oui, mais je lis la Bible une fois par semaine. C'est pas assez. Combien de fois par jour est-ce que vous mangez? D'habitude, c'est au moins deux bons repas, des fois trois bons repas chauds. Et ça prend ça pour notre corps physique, mais pour votre esprit, vous pensez une petite collation froide une fois par semaine, ça suffit. Non. Ça prend la parole enracinée dans le cœur. Psaume 119, 14, dans vos notes. Je me réjouis en suivant tes préceptes. Comme si je possédais tous les trésors. On devrait avoir l'attitude envers la parole de Dieu. On devrait savoir que cette Bible-là vaut mieux que tout l'argent dans le monde entier.
Amen.
Si j'avais le choix, si j'étais sur une île déserte ou je savais que dans un an, j'allais me rendre encore dans la société, et avoir la possibilité d'acheter quoi que ce soit. Et si quelqu'un aurait pu m'offrir soit une Bible ou soit 10 millions de dollars, qu'est-ce que vous choisirez? Vous serez bien mieux de choisir la Bible. Amen. Comme ça, tu vas être heureux. Comme ça, tu vas être prospère. Comme ça, tu vas réussir. Amen. La prospérité, c'est là. C'est pas dans le portefeuille. Ça se voit dans le portefeuille des fois. Et ça commence dans le cœur. Amen. On va voir Sa parole doit remplir notre cœur et notre bouche. Comment est-ce qu'on peut méditer la parole de Dieu? La méditation, ce n'est pas juste comme le yoga. Hein? On ne parle pas de yoga ici. On parle de méditer, de prendre la parole de Dieu, de lire et de murmurer la parole de Dieu, que la parole soit dans notre cœur et dans notre bouche. La Bible dit, et il y a quelques versets que j'ai mis dans les notes, que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Tu m'en dis dans ma bouche et dans mon cœur. Si la parole est juste entre vos oreilles, ça donne rien. Il faut que la parole soit dans votre cœur et dans votre bouche. De l'abondance du cœur, la bouche va faire quoi?
Parler.
Regardons bien. Psaume 119, verset 9, et je vous encourage à lire tout le psaume 119 à la maison. Mais on va juste lire une partie pour sauver du temps aujourd'hui. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Encore nous parlons de la pureté. En se dirigeant d'après ta parole, je te cherche de tout mon cœur. Je ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur. Pourquoi? Afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts de mes lèvres. Donc, nous voyons, je sais ta parole dans mon cœur, mais de mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Si tu veux être un arbre planté dans un courant d'eau, il n'y a pas un substitut, il n'y a pas un raccourci. Il faut prendre le temps jour et nuit à méditer la parole de Dieu. Si vous laissez votre Bible sur l'étagère jusqu'à dimanche matin, laisse-moi vous dire, vous serez toujours un misérable dans le désert. Mais si vous prenez votre Bible, et ce n'est pas juste une chose que vous faites avec la chair, mais dans l'esprit, vous dites, Seigneur, enseigne-moi tes statuts. Enseigne-moi par l'Esprit Saint. Révèle à mon esprit, à mon cœur, la signification de ces paroles. Et là, tu prends une parole, tu dis, merci Seigneur. Je sais que je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Je sais, Seigneur, je suis plus pécheur. Mes membres ne sont plus les membres de l'injustice, mais ce sont les membres de la justice. Et tout ce que vous lisez, vous méditez, vous murmurez, vous répétez sans cesse avec votre bouche. Plus vous faites ça, ça va descendre dans votre cœur et vous allez devenir fort comme les racines vont atteindre les profondeurs où les courants d'eau coulent. Amen. Josué 1,8 dit dans la parole de sa mère, « Aie soin de répéter sans cesse. » Mon Dieu, répéter sans cesse. Mercredi soir, j'ai parlé de l'importance de prier dans l'esprit, de prier en autre langue. Et j'ai dit que beaucoup de personnes viennent me voir avec des méchants problèmes et je pose la question, est-ce que vous priez en langue? Ils disent, mais non, je ne vois pas l'utilité. Mais là, l'utilité est là dans la parole de Dieu. C'est clair, c'est marqué, noir et blanc. C'est une bonne chose à faire, c'est bénissant, ça ouvre la porte au surnaturel, toutes les choses sont claires. Mais savez-vous, la méditation, répéter, confesser la parole de Dieu, c'est la même chose. Combien de fois les personnes viennent me voir et je dis, bon, est-ce que vous avez pris du temps chaque jour dans la parole? Est-ce que vous méditez ou est-ce que vous déclarez avec votre bouche les versets de la Bible? Mais non, mais je ne vois pas l'utilité. Voilà l'utilité. C'est à vous de choisir. Si la parole n'est pas dans votre cœur et si elle n'est pas dans votre bouche, vous serez un misérable dans le désert. Mais si vous répétez sans cesse, et si vous avez soin de répéter sans cesse, qu'est-ce que Dieu dit? Vous allez devenir un arbre planté près des courants d'eau. Amen? Qui porte son fruit en toute saison. Numéro 3, on va finir ici. Faites-lui confiance en obéissant à sa parole. Donc, ce n'est pas juste une question de méditer la parole, d'avoir une révérence pour la parole. Il y a des personnes qui ont une fausse, comment je dirais, une révérence qui n'est pas vrai envers la Bible. Il y a certaines personnes que le livre, le papier, l'encre est si saint pour eux qu'ils ne veulent même pas le toucher. Mais vois-tu, la Bible est trop sainte pour toucher. Ça, c'est stupide, hein? La Bible ne vaut rien à moins que ça soit dans votre cœur. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Il veut que nous ayons soin, pas juste d'avoir de la révérence en sachant que tout ce que je lis là-dedans, c'est Dieu qui me parle. À chaque fois que je lis un verset, c'est Dieu qui me parle. Tout le monde dit la Bible, c'est Dieu qui me parle. Et étant donné que j'ai de la révérence et je crains Dieu, je vais méditer la parole jour et nuit. Je vais lire, je vais méditer, répéter, confesser qu'est-ce que la Bible dit pour que ça soit dans mon cœur, pour que ça soit dans ma bouche. Mais c'est pas assez. La Bible dit, et en Josué 1:8, c'est marqué encore, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Pourquoi? Qu'est-ce qui est marqué? Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Donc, si vous écoutez la parole et vous, votre but, c'est pas de mettre la parole en pratique, vous vous trompez vous-même. Proverbe 16:20 dit, « Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. » Pourquoi est-ce qu'un chrétien va des fois lire un passage de la Bible avec les instructions qui sont claires, qui sont nettes, que ce soit au niveau du pardon de pardonner les autres, de marcher dans l'amour avec son épouse, de garder les relations sexuelles pures, de ne pas établir les... comme par exemple, un chrétien, la Bible est claire là-dessus, un chrétien ne devrait pas se marier avec un non-chrétien. Amen. C'est la Bible qui le dit. Encore, si vous n'aimez pas ça, c'est pas moi, c'est Dieu qui le dit. Amen. Pourquoi est-ce qu'un chrétien peut lire les passages de même? Ou, par exemple, quand la Bible dit de donner, il vous sera donné. Quand la Bible parle d'honorer l'Éternel avec les prémices de tes revenus et de donner la dîme de tous vos revenus à Dieu et les offrandes, dans n'importe quel domaine, comment est-ce qu'un enfant de Dieu qui est né de nouveau peut lire les passages de la Bible et ne pas agir en conséquence? C'est parce que, non, c'est très possible. Et ça arrive à tous les jours. Qu'est-ce qui arrive, c'est que les gens n'ont pas confiance en Dieu. Amen? Ils se confient dans l'homme, dans la chair. Oui, je sais que Dieu a dit qu'il faut faire telle chose, mais j'ai peur. Mais si je fais ça, je ne sais pas comment je vais arriver. Si je fais ça, quelqu'un va me blesser encore. Si je fais ça, je ne sais pas comment ça va fonctionner. Si je fais ça, ça se peut que je vais être seul toute ma vie. Je serai toujours célibataire. Est-ce que vous me suivez? Et le problème, c'est un manque de confiance. On ne croit pas vraiment, soit que la Bible est vraiment Dieu qui nous parle, ou on ne croit pas vraiment que Dieu est bon, qu'il nous aime, et que son plan pour nous et ses préceptes sont vraiment le chemin de la vie, qui mène à une vie heureuse et qui nous promet le bonheur. Si on était convaincu que tout ce que Dieu a dit pour ma vie, c'est la meilleure chose pour ma vie, c'est la meilleure chose pour moi, je n'ai pas dit la chose la plus facile. Des fois, la route la plus facile, ce n'est pas la bonne route. Amen. Proverbe 14 dit même, il y a un chemin qui semble bon à l'homme, mais l'issue ou la fin de ce chemin, ce sentier, c'est la mort. Des fois, on dit, la Bible dit, comme j'ai dit, tel commandement, telle chose à faire, oui, mais il me semble que ça serait bien de le faire de cette façon, cette fois-ci, et le Seigneur va comprendre. Ce chemin-là mène à la mort. Mais si on se soumet en disant, OK, Seigneur, je ne comprends pas peut-être. Je ne sais même pas comment ça va vraiment donner les résultats que je veux, mais je te fais confiance. Et je me soumets. Et avec ton aide, par la puissance du Saint-Esprit, je vais obéir à ta parole. Un homme qui fait ça va être un arbre planté près des courants d'eau. Il n'aura rien à craindre dans l'année de sécheresse. Un homme qui choisit son propre chemin va être un buisson, un misérable dans le désert. Poussé ici, poussé là, écrasé, brûlé, consommé. Ou on peut être les arbres plantés, inébranlables. On ne bouge pas, personne ne peut nous déraciner. Amen? Là, moi je crois de tout mon cœur que je vous ai donné l'oracle de Dieu pour cette église. Je crois que je vous ai donné qu'est-ce que le Seigneur voulait que vous entendiez. Ce n'est pas forcément qu'est-ce que je voulais prêcher. Mais encore, je crains Dieu. Plus que je crains les hommes. Et si les gens ne sont pas contents de moi, ça c'est des valeurs. Mais si Dieu n'est pas content de moi, ça c'est d'autres histoires. Amen.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.